De Tsug à Sana,
des primaires au bilatéral,
toute l'actualité,
ou presque,
dans Carrément Méchant.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 8e numéro de Carrément Méchant. Salut Émilie.
Salut Yann, comment ça va?
Eh ben ça va plutôt pas mal, même si pour moi la semaine a été un petit peu chargée.
Oui, j'en suis désolée d'ailleurs, c'était un peu de ma faute.
Non, pas tellement en fait, hein. C'est plutôt dans les interstices qu'on cale ces enregistrements d'émissions qui font 30 à 40 minutes et qui sont toutes les 3 semaines et qui sont dédiées à l'actualité internationale ainsi que suisse, il faut bien le dire.
Et l'actualité, une fois de plus, a été plutôt riche cette semaine, mon cher Yann.
Exactement, puisque tout d'abord, tu vas nous parler d'un pays qui t'est très très cher, c'est l'Iran.
Absolument, il m'est très très cher, mais surtout puisque après m'être rendu personnellement en Iran, c'est
oui.
L'Iran qui est venu à Lausanne, ma ville natale,
oui.
Pour un nouveau round de négociations sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. D'ailleurs, le mot round n'a jamais été aussi bien approprié que dans ce contexte, puisqu'on dirait vraiment des espèces de sessions de boxe où les conditions de l'accord seraient acquises après quelques punchs bien serrés de M. Kerry dans la face de M. Zarif. Enfin bref, c'était... Malheureusement, je n'étais pas à Lausanne, j'aurais bien voulu être là-bas et aller croiser John Kerry qui s'est baladé à vélo sur les quais d'Ouchy. Il y a eu des images assez marrantes de donc, ce
oui.
Monsieur. Il a quand même une tête un peu bizarre, monsieur Kerry. Hein. Il a un grand menton. Ouais.
Exactement.
Et il a l'air d'être à moitié fait de cire. Enfin, je sais pas comment.
Ouais. On a des photos de lui et son menton, moi, dans la main sur les quais de Lausanne.
Absolument. Il est également allé manger dans la crêperie la plus mauvaise de Lausanne, ce qui était une faute de goût absolument intolérable. Mais enfin, bref, on lui pardonne.
Ouais.
On lui pardonne, il s'est passé d'autres choses un petit peu étranges pendant ces négociations. Elles ont dû être interrompues en catastrophe la semaine passée à cause du décès de la mère du ministre des Affaires étrangères, M. Javad Zarif. Et donc pendant ce temps, M. Kerry a été faire du vélo et manger des crêpes. Mais dans tous les cas, on a beaucoup, beaucoup parlé de ces négociations en Suisse et à Lausanne, mais également dans le reste du monde. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un petit background
oui.
Et un peu vous expliquer de quoi il se passait, puisque ça doit être quand même les discussions un peu les plus importantes de l'actualité actuellement, ce qui était très légèrement redondant.
Non, ne t'inquiète pas, ils n'ont rien
remarqué. Redondamment redondant. Alors, donc je vais vous faire simplement un petit qui, quoi, pourquoi, comment. Sur ces négociations, puisque comme ça vous serez au clair et vous pourrez avoir l'air brillant dans les conversations mondaines avec vos amis.
Et bien en ville, n'est-ce pas?
Absolument. Alors de qui parle-t-on? Ces négociations réunissent à la même table l'Iran
oui.
Et ce qu'on appelle le groupe du petit nom des P5+1. Ce qui me rappelle un petit peu les systèmes de numérotation français, mais on ne va pas, on va pas élaborer là-dessus. Qui désigne les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne, qui est certainement ravie d'être considérée comme le petit frère qu'on prend avec pour éviter la crise de larmes.
C'est le best buddy.
Exactement, genre non, mais elle voulait absolument venir, c'était pas cool.
Hollande qui fait « Attends, je ramène ma meuf
!» Ouais, c'est un peu, ils sont un peu dans une relationship complicated ces temps, mais... enfin, bref. Et donc ces charmants pays discutent de quoi ? Discutent d'un accord qui limiterait les capacités de Téhéran de développer l'arme atomique, qui par ailleurs, dont on les soupçonne déjà de la posséder, ou dans tous les cas de posséder une technologie suffisante pour la développer s'ils avaient tous les composants techniques. Donc c'est déjà un peu n'importe quoi puisque c'est un tout petit peu hypocrite, mais enfin on n'a pas de preuves, donc pour amuser la galerie, on va dire, on va faire un accord qui limite les capacités de Téhéran. Donc ça c'est ce que recherche le P5+1. Pour Téhéran par contre, l'accord implique que l'Iran puisse développer plus ou moins librement, enfin le plus librement possible, un programme nucléaire civil, et en retour que l'Occident enlève toutes les sanctions économiques qui paralysent en fait l'économie iranienne depuis plusieurs années, dont notamment un embargo sur le pétrole, qui les embête un tout petit peu, puisque l'Iran possède près de 10% des réserves mondiales de pétrole et 15% des réserves de gaz. Et donc, dans tous les cas, on imagine qu'il y a quand même quelques compagnies occidentales qui seraient très contentes de se faire du blé avec le pétrole iranien. Donc c'est déjà un peu tendu, mais également les sanctions recouvrent l'inclusion de l'Iran au programme SWIFT, qui règle les transactions bancaires électroniques. Et il y a une population de 80% d'Iraniens qui rêvent de faire leurs achats sur Amazon ou chez Zalando. et qui n'attendent que ça. Donc si on arrive à un accord à Lausanne, Zalando aura beaucoup de nouveaux clients, ce qui finalement n'est pas une mauvaise chose. Et sans les sanctions, on a calculé que l'économie iranienne pourrait croître d'environ 8% dans les prochains mois. Si toutes les sanctions sont soulevées totalement et immédiatement, en fait. Ça, c'est ce que veut l'Iran. Par contre, les Occidentaux, ils veulent pas. Ils veulent faire ça gentiment, progressivement, etc. On va pas aller trop vite. Et vous allez me dire, mais quel est le problème que l'Iran ait l'arme atomique, au-delà du fait qu'il y a quand même beaucoup d'ayatollahs un petit peu fous qui aimeraient bien... balancer des missiles à gauche, à droite. Mais l'idée, c'est toujours les mêmes problèmes avec l'arme atomique, c'est que les Occidentaux se mordent un peu les doigts d'avoir découvert ça, ou alors ils auraient bien aimé pouvoir oublier qu'ils ont découvert ça et qu'ils ont fabriqué ça après avoir rasé Hiroshima et Nagasaki, parce qu'à partir de là, ça a quand même été un peu le bordel pour eux. Et du coup, c'est d'autant plus embêtant si un gouvernement aussi... aussi sensible que le gouvernement iranien possède une arme nucléaire, d'autant plus qu'il a appelé plusieurs fois à la destruction totale d'Israël, qui est également le petit frère des USA, et donc les USA ne peuvent pas vraiment laisser ça arriver.
Ça doit être bien la journée des voisins chez eux quand même.
Hein. Ouais, non, mais
c'est genre destruction globale. Mec, je suis sur le même palier.
Non, mais c'est marrant, on a vu d'ailleurs à l'anniversaire de la révolution iranienne, ils distribuent des pancartes à des petits enfants sur lesquels c'est écrit « Death to Israel ». Enfin, bonne ambiance, comme on dit. Donc l'idée globalement de cet accord, c'est de protéger Israël d'un Iran nucléaire. Par contre, Monsieur Netanyahou, le premier ministre israélien, je ne suis pas sûre que quelqu'un lui ait expliqué ça. Parce qu'il est complètement opposé à un accord qu'il estime trop souple et qu'on ne peut absolument pas parlementer avec les Iraniens. Ouais. Et que ce serait vachement mieux de bombarder l'Iran directement.
Et il y a des solutions, là, encore une fois, très mesurées.
Voilà, non, mais voilà, il nous montre déjà l'étendue de sa créativité, et puis à quel point il s'est... Enfin, il a écouté... il se rend compte que c'est pas forcément une bonne idée de bombarder des États au Moyen-Orient, mais enfin bon, pourquoi pas. Donc il est très très fâché qu'il y ait un accord. On vous en a parlé la semaine passée, il a fait un grand discours au Congrès américain pour convaincre les sénateurs, dont la plupart étaient déjà convaincus, qu'il ne fallait avoir aucun dialogue avec l'Iran. D'ailleurs, le Congrès a envoyé une lettre à l'Iran en leur disant de ne pas faire confiance à Obama,
oui.
Ce qui était un très bon signe pour montrer...
L'unité du pays.
Voilà, l'unité du pays, l'unité nationale, hein, c'est un grand thème. Et pour finir en beauté, donc Netanyahou a évoqué pas plus tard que ce dimanche l'immense danger que représenterait un accord trouvé par l'axe, tenez-vous bien, Iran-Lausanne-Yémen.
Oui.
Alors,
on l'a vu ce déjà, matin avec Antoine, en se réveillant, c'était merveilleux.
J'ai beaucoup ri aussi. Alors déjà, si cet axe existait, ce ne serait pas un axe, mais un triangle.
Oui.
Mais au-delà de ça, on n'a pas très bien compris pourquoi il mettait le Yémen au milieu de tout ça. Je vais d'ailleurs vous en parler dans ma prochaine rubrique, mais tout ce qui se passe au Yémen n'a plus ou moins rien à voir avec le programme sur les négociations nucléaires iraniennes. Enfin bref, une fois de plus, Netanyahou nous montre l'étendue de sa sagacité. Alors j'espère que vous avez un tout petit peu plus compris de quoi il en tient de ces négociations. Normalement, on devrait signer un accord d'ici la fin de la semaine, et puis un accord définitif devrait être signé en juin. Par contre, si aucun accord n'est signé, ça risque d'être encore plus le bordel. Et voilà, j'ai un peu pitié de vous et on va arrêter de vous parler Moyen-Orient pendant quelques minutes.
Oui.
Et je donne la parole à Yann qui va nous parler d'une autre raison pour laquelle nous allons tous bientôt mourir.
Oui, et prenez-vous un verre pour étancher votre soif, ça pourrait ne pas durer longtemps. Pour le coup, on va aussi parler d'accords qui, alors pour le coup, se signent, mais ne servent pas nécessairement à grand-chose, et des rapports qui entourent, des situations assez alarmantes. Car oui, c'est l'heure d'un nouveau rapport très alarmant des Nations Unies que tout le monde va s'empresser d'ignorer.
D'oublier.
Exactement. Le rapport « L'eau pour un monde durable » nous informe, sans grande surprise, que 20% des réserves d'eau souterraines sont surexploitées alors même que la demande ne fait qu'augmenter. On remarque aussi que 748 millions de personnes n'ont pas accès à une source d'eau dite améliorée. Alors, Émilie, je te pose la question, selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une source d'eau améliorée ?
C'est comme une source d'eau, mais c'est mieux.
C'est mieux, genre il y a un serveur ?
Je sais pas, il y a une gommette dessus.
Ah, d'accord.
Enfin, je sais pas, il y a un palmier à côté.
Évidemment,
C'est
moi,
là en cristal. Non?
avant de me renseigner, moi, je me suis aussi posé la question, hein. Présence d'un barman pour vous servir un verre, packaging élégant façon Evian cristalline ou à prose, service dans un verre en or. Non, pas du tout. Par source d'eau améliorée, ce rapport en temps, point d'eau protégée de la contamination extérieure. Waouh! Sans nul doute une amélioration en comparaison d'un point d'eau où traînent toutes les saloperies imaginables, mais le
Voilà.
fait qu'on puisse faire cette distinction, et ce pour 748 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale,
Et
montre
pourquoi ils disent
bien.
pas eau propre?
Améliorer! Améliorer!
Oui.
C'est beaucoup mieux de dire que 10% attend une source d'eau
Voit le
améliorée,
progrès
plutôt
en
que de
note de
dire que
progrès.
10% boit de l'eau salopée.
Ouais.
C'est plus
Bon.
simple, c'est
Ça,
plus
c'est triste,
joli.
non? Enfin, peut-être. Je...
Oui?
Certes, certes.
C'est triste, hein, c'est triste, mais voilà,
Oui,
10%.
alors ouais, le langage technocratique, c'est quand même une belle saloperie de temps en temps.
Oui, 10% de la population mondiale qui ne peut pas accéder à une source d'eau propre à la consommation.
Propre slash amélioré slash
Exactement.
2.0.
Ça montre bien l'état vraiment catastrophique des choses de ce côté-là. Mais comme d'habitude avec ces études vachement inquiétantes, le rapport pointe un paradoxe parfaitement idiot et typiquement humain. Malgré cette crise en puissance, il existe, je cite, suffisamment d'eau pour répondre aux besoins grandissants du monde, mais pas sans changer radicalement la façon dont l'eau est utilisée, gérée et partagée.
Blâmons les clients.
Alors là, évidemment, la question qu'on va se
Blâmons,
poser, c'est
même.
à qui la faute? À qui la faute? Pourquoi est-ce qu'on manque de flotte? Eh bien, tout d'abord, évidemment, l'agriculture, qui est l'industrie la plus demandeuse en or bleu et dont la consommation va encore augmenter. La projection des Nations Unies fait état d'un bond de 400% de la consommation pour l'agriculture entre 2000 et 2050.
Ah
Alors,
ouais,
là encore une
c'est
fois,
beaucoup.
la question, pourquoi? Parce qu'elle devra produire 60% de nourriture en plus, car
Ah,
les
parce qu'il y
pauvres.
aura plus de monde.
Oui, les pauvres qui deviennent un peu plus riches, voyez-vous, l'augmentation du niveau de vie, notamment en Afrique et en Asie, ainsi que le
Voilà.
caractère particulièrement positif de la balance entre les nouveau-nés et les nouveaux morts au niveau mondial, bah, ça génère 80 millions de personnes en plus sur Terre par an, fait que la demande en eau donc augmente partout autour du globe. Plus il y a de gens, moins il y a de flotte, comme en Inde où le nombre de puits mécanisés est passé de 1 à 19 millions en seulement 40 ans, de 1960 à 2000. C'est tendu pour les nappes phréatiques du coin. Toutefois, rassurez-vous, les vieux mécanismes ne changent pas, ce seront toujours les plus pauvres de la planète qui en pâtiront le plus dans cette affaire. Restez assurés que même en 2030, vous et moi aurons encore de quoi diluer notre pastis et passer de longs quarts d'heure dans nos douches chaudes. Quant aux plus démunis de la planète qui mourront bêtement de soif, voyez ça du bon côté. C'était l'eau qui permettait de les faire vivre aussi longtemps. La nourriture équilibrée est déjà un concept qui leur est étranger. Grâce à la pénurie d'eau, ces centaines de millions de personnes seront tout simplement un problème de moins à gérer.
Ouais, c'est un peu la balance de Malthus, non?
C'est exactement ça, c'est vachement intéressant, la trappe, la fameuse trappe malthusienne qu'on nous apprend quand on prend n'importe quel cours de sociologie, même si on fait pas socio, où on nous explique qu'en gros, alors ça avait été battu en brèche à l'époque par des réalités statistiques, économiques,
Oui, c'est une de
sociologiques,
ces grosses théories hyper simplistes en mode
voilà.
clash des civilisations et.
Même pas, qui disait simplement que enfin comment dire, quand ça va bien, il y a plus de naissances, quand il y a plus de naissances, tu tires plus sur les ressources, et quand tu tires plus sur les ressources, il y a moins de ressources, donc il y a plus de gens qui meurent, donc il va y avoir moins de naissances.
Voilà, il faut qu'il y ait un
Donc,
équilibre entre ressources et démographie.
oui,
Donc, s'il y a moins de ressources, des gens vont mourir, mais c'est pas grave puisqu'on va arriver à un nouvel équilibre.
et ce que Malthus, comment dire, proposait du coup, c'est de prendre le problème à bras-le-corps et du coup de commencer à tuer des gens directement, ou de ne pas de limiter les naissances directement pour ne pas avoir à souffrir au niveau des ressources, ce qui est un petit peu compliqué à gérer quand on
C'est
pense par
vrai.
exemple aux pays de l'Est qui ont tenté des choses comme ça.
Mais il
Je
n'y a pas
regarde
que.
fort. Si, il n'y a pas que effectivement.
Non, oh, il y en a plusieurs qui
Il y
ont
a certes.
essayé. C'est vrai que ça s'est toujours relativement mal passé, mais enfin.
Oui, bah, par des absurdités administratives comme par exemple la politique de l'enfant unique et la préférence pour les garçons fait qu'il y a un gros problème en Chine de ce côté-là notamment, mais et ne serait-ce que d'ailleurs la façon dont ils maltraitent, bah, imagine que tu fasses naître des jumeaux, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà, c'est toujours des
Bah, t'en
politiques
as un, c'est facile.
amusantes. Voilà, mais dans quelle eau? Tiens, il est là le problème, il est là le problème. Dans
Et
50
bim!
ans, tu ne pourras plus noyer les chatons et les enfants.
Oh merde.
C'est grave!
Bon, puis c'est vrai que la strangulation, enfin, c'est un peu moins.
C'est
Je
vrai.
pense que tu te sens plus coupable.
Ouais.
Parce que tu peux dire non, non, mais il est tombé dans le puits.
Alors, j'espère que cette interlude positive, évidemment, vous a un peu remis de vos émotions côté Moyen-Orient. Et bien, on y retourne. Et cette fois-ci, donc, t'as dit que tu nous expliquerais un peu la situation au Yémen. Netanyahou met le Yémen dans le même panier que, je cite, Lausanne, donc, et l'Iran. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe au Yémen ?
Eh bien, c'est une très bonne question, Yann. Oui. Et je crois que pas beaucoup de gens comprennent ce qui se passe là-bas, moi y compris. Mais dans tous les cas, il se passe quelque chose. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Oui.
Et tout le monde parle du Yémen.
Ok.
Donc. Alors, en gros, je vais essayer très humblement de vous expliquer ça.
Vas-y.
Pour donner raison à tous les clichés sur le mystère de la complexité du Moyen-Orient,
oh.
Nous allons au Yémen vers une nouvelle guerre. Yay, trop cool. On s'ennuyait presque avec toutes ces histoires vachement sobres.
Moi, j'attends la guerre du Golfe.
L'État islamique, de la Syrie, etc. Franchement, c'était...
Ouais. J'attends la guerre du Golfe 3.
Voilà, c'est ça, on s'ennuyait un peu du coup. Alors, l'Arabie Saoudite s'est dit que ce serait une vachement bonne idée de faire la guerre, mais en langage légal, d'effectuer une opération militaire terrestre au Yémen. Hein. Voilà. donc le Yémen, ce pays au bout de la péninsule arabique que tout le monde associe vaguement avec pétrole et avec Al-Qaïda, mais en même temps, vous faites tous la même chose avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, le Koweït et Oman.
On fait ça avec tous les pays d'Arabie...
C'est-à-dire que c'est un de ces énièmes pays de la péninsule arabique qui ont beaucoup de pétrole et beaucoup de pétrodollars. Donc, ce qui se passe actuellement au Yémen, c'est que donc l'Arabie Saoudite veut une opération militaire contre des milices chiites houthis, H-O-U-T-H-I, qui étaient à la base une tribu donc chiite du nord du Yémen, qui depuis septembre ont envahi plusieurs villes pour finalement occuper la capitale du Yémen, Sanaa. Ces houthis sont soutenus par l'Iran, qui ont une tendance tout à fait, finalement de façon relativement logique, soutiennent les chiites au Moyen-Orient. Et l'Arabie Saoudite, étant le principal pouvoir chiite, n'est pas très contente. Alors l'idée, c'est de foutre loin ces chiites de la capitale du Yémen. Donc l'Arabie Saoudite veut lancer ça, et elle est soutenue par beaucoup, beaucoup de gens. Donc tous ces gens trouvent que c'est une idée géniale de relancer un conflit au Moyen-Orient.
Le Yémen est allé sur Kickstarter et a fait « Allez, on lance une nouvelle guerre !»
Ah oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça super. Et c'est les mêmes personnes qui sont là « Non, mais il faut absolument pas intervenir en Syrie et pas intervenir en Irak. » Par contre, au Yémen, bien sûr, allons-y gaiement tous ensemble. Donc, dans les soutiens de l'Arabie Saoudite, on compte l'intégralité de l'Association des Amis de l'Arabie Saoudite de façon surprenante.
Ah bon ?
Égypte, Jordanie, Maroc, Soudan, Pakistan... État arabe uni, le Qatar, le Koweït,
Émirats arabes unis.
Oui, alors j'ai écrit UAE sur mon document et j'ai un peu bugué. Mais également donc la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, la Belgique et les USA. Alors ce qui est rigolo avec les USA, enfin moi je trouve ça assez marrant. Dans la rubrique What the fuck, les USA vont soutenir l'Arabie Saoudite au Yémen. Contre des milices chiites soutenues par les Iraniennes. Tenez-vous bien, vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Donc je répète, les USA vont soutenir l'Arabie Saoudite contre des chiites au Yémen. Ces chiites eux-mêmes étant soutenus par l'Iran. Par contre, en même temps, quelques centaines de kilomètres au nord, en Irak, les USA protègent avec leurs forces aériennes des milices chiites iraniennes qui se battent contre l'État islamique.
Attends, je prends en note, stratégiquement, ça me semble très con.
Oui, alors ce qui se passe, c'est que, comme l'a fait remarquer apparemment John Stewart dans un Daily Show récent, les États-Unis vont finir par s'attaquer eux-mêmes. en Irak, ils collaborent avec l'Iran, et au Yémen, ils leur butent la gueule. Alors, si vous n'avez pas compris, enfin, si vous avez mal à la tête, dans tous les cas, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de sens. Ce sont ce qu'on appelle les joies de la realpolitik.
Oui.
Par contre, on se réjouit quand même du jour où les gens commenceront à comprendre que se balancer des bombes parmi n'est pas vraiment la bonne solution pour atteindre la paix et la stabilité.
C'est vrai. Bizarrement, hein, encore une fois. Mais
bizarrement. Ouais. Voilà, alors c'était encore une nouvelle
relativement
sombre.
Oui.
À vous annoncer, mais j'espère que vous avez un peu plus compris, en tout cas, ce qui se passait, si ce n'est... et on vous pardonne si vous n'avez pas compris pourquoi ça se passait, mais dans tous les cas, ça risque de se passer, et vous pourrez maintenant zapper entre trois chaînes différentes, la chaîne Guerre en Irak, Guerre en Syrie et Guerre au Yémen.
Quel bouquet satellite très intéressant.
Absolument. Voilà, du coup, alors on va quand même essayer de parler d'autre chose.
Oui.
Et Yann, tu vas une fois de plus nous emmener en
Et
France,
je
et
t'emmène en
j'adore quand tu
France.
m'emmènes en France.
Oui, voilà. Prends ton
Ma
billet de train,
baguette,
je t'emmène
mon
en France. Et ta baguette,
béret.
exact. Et ton béret et tes bretelles.
Oui.
Donc, France, comme on dit sur Internet. Je vais t'emmener voir Monsieur Christian Estrosi, le bon
Avec
Christian Estrosi.
plaisir. Qui
Exactement.
est-il? Qui
Je
est
vais y
ce
venir, je vais y
Christian
venir, je vais y
Estrosi?
venir.
Ah.
Donc, Monsieur Christian Estrosi, c'est un monsieur, il a des cheveux noirs, il est, voilà, il est là, réaffirme sa candidature aux primaires de l'UMP, le principal parti de droite de France. Premier point légèrement étonnant, celui-ci se présente alors qu'il avait juré fidélité à son ami Nicolas Sarkozy, en promettant donc en juin 2014 qu'il ne se présenterait pas contre Sarkozy. Vu que Sarkozy semble toujours partant pour la primaire, même s'il n'est pas officiellement déclaré, il a fallu à notre ami Estrosi une justification concernant ce revirement. Tout d'abord avec cette tirade d'équilibriste de la politique, si on était à 100% d'accord, ce serait deux candidatures inutiles. Ah, hein? Donc tu quantifies à combien alors? 88? 93%? Tu veux faire un test de compatibilité? Il y en a un dans le dernier numéro de L, hein, sauf erreur. Il a
Je sais pas,
ensuite...
hein. Moi je l'ai pas elle.
Il a ensuite dit, j'ai mes idées à défendre. Je les défendrai aux primaires. Nous
Ah,
voilà
c'est
rassurés.
beau.
Alors franchement, nous voilà rassurés.
Petite larme.
Ouais, non, mais enfin, grosse nouvelle, quoi, nous voilà rassurés. Franchement, l'espace d'un instant, on aurait cru penser qu'il irait aux primaires pour défendre les idées de Krusty le clown, de l'idiot du village, ou pire encore, de celles et ceux qui financeront sa campagne. Non, là, la précision était nécessaire. Nous voilà rassurés.
Et
Oui?
donc, quelles sont ses idées à ce brave monsieur Estrosi?
Ah, ça va y venir, mais d'abord, je vais quand même un peu expliquer qui c'est, ce Christian Estrosi. C'est
Avec
un
plaisir.
sacré bonhomme. C'est un routard de la politique, un de ces fameux ministrables qui, entre deux mandats nationaux, se repose peinard dans sa mairie. En l'occurrence, sa mairie de Nice. Il en existe partout, à droite, au centre, comme à gauche, et on peut être sûr que le Front National de Marine Le Pen aura exactement le même nombre de pantouflards s'il remporte la présidentielle de 2017. Estrosi, donc, c'est l'actuel maire de Nice, l'actuel député de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, donc ça fait déjà deux mandats, ancien vice-président de l'UMP, ancien ministre de l'Industrie, ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer ou encore de l'ancien ministre délégué à l'aménagement du territoire, un parcours logique, évident, qui prouve que Cricri est décidément bon en tout, une intelligence hors du commun, le rendant capable de passer politiquement d'une chose à son contraire, quel homme! Quel homme! Et
Ce
alors,
qu'on
tu...
appelle le multitasking.
Exactement. Tu me demandais, et ses idées au juste? Eh ben, pêle-mêle. Ce qu'il dit, par exemple, c'est que ce qui mène à voter pour le Front National, à droite comme à gauche, c'est plus une souffrance, la crise économique, la perte de croissance, le chômage. Il ajoute ensuite qu'il s'oppose à la proposition de suppression du menu sans porc dans les écoles, avec une justification étonnante. Je ne veux pas entendre parler ni de halal, ni de cachère, bien évidemment, mais quand on est issu d'une famille où l'éducation fait qu'on ne mange pas de porc, je ne veux pas imposer à des enfants de consommer du porc. Voilà pourquoi nous faisons des menus différenciés. Alors, ouais, mais dans ce cas-là, quelle famille? L'amicale des végétariens qui ne mangent pas de porc mais qui ferment les yeux quand il s'agit de bœuf? Ok.
Je trouve
Enfin.
toujours rigolo à quel point c'est une problématique
Oui.
sensible et à quel point tous les politiciens français sont obligés de se
Ah, mais ça.
prononcer sur les menus à l'école. Enfin,
Ah, mais surtout que ça ne sert à
j'en ai
rien.
jamais entendu parler de ça
Juppé.
dans d'autres pays.
L'ancien Premier ministre Alain Juppé a déclaré que ça n'emmerdait personne en le disant comme ça, hein, ça n'emmerde
Ouais, mais il a bien
personne.
raison. Enfin, je veux dire,
Voilà.
voilà, tu proposes plusieurs menus et les putains de gamins, ils choisissent ce qu'ils veulent. Merde, arrêtez.
Vais le passer en explicite ce podcast, tu vas voir.
Pardon, excusez-moi,
Non,
censurez-lui.
moi ça me fait marrer, c'est juste que j'ai pas l'habitude que tu le fasses en antenne, mais pourquoi
Oui,
pas, hein.
alors, c'était très spontané.
Allez. Enfin, donc, notre grand guide, Christian Estrosi, a sa solution ultime pour éviter rien moins que la Troisième Guerre mondiale. Et ça passe, selon lui, par l'alliance avec des pays tout à fait sympathiques. Il
Attends.
déclare, quand je vois qu'on refuse de livrer deux Mistral à la Russie, et qu'en même temps on se vante de livrer 24 Rafales à l'Égypte, dont on ne sait pas si demain les frères musulmans ne reprendront pas le pouvoir et ne retourneront pas les 24 Rafales contre nous. La Russie, qui sont nos amis, Israël, qui est notre ami de toujours, unissons-nous ensemble pour mettre un terme à ce qui sera la Troisième Guerre mondiale. Sans ça, nous n'y viendrons pas à bout.
Donc
Voilà.
là, tu es en train de le citer.
Cité mot à mot.
Mon Dieu.
Voilà. Donc, encore une fois, talentueux, compétent,
Non, mais
honnête,
il a l'air d'avoir
droit.
des bonnes leçons de politique internationale,
Ouais,
surtout.
non, mais il
Et je
est.
trouve toujours rigolo à quel point les pays occidentaux, ils sont persuadés que la première chose que, genre, je sais pas, le tiers-monde, enfin, qui que ce soit qui existe en dehors de l'Occident, Genre, tout ce qu'ils veulent, c'est buter la gueule de l'Europe et des pays occidentaux. Genre, ils ont rien de mieux à foutre, tu sais.
Oui, non, bien
C'est
sûr.
vraiment, dès qu'ils auront des armes, tout ce qu'ils vont faire, c'est la même chose avec l'Iran. La première chose que l'Iran va faire dès qu'il aura l'arme atomique, c'est la balancer sur Israël parce que, genre, ça va vraiment améliorer les choses. Enfin,
En
il y a un
fait.
moment où l'Europe devra se rendre compte qu'ils sont pas si importants que ça et puis que peut-être qu'ils vont juste se faire un peu mépriser. Il y aura un peu moins de commerce avec eux, mais enfin, on veut pas nécessairement toujours leur buter la gueule.
En fait, si le bon parallèle, ce serait de dire que l'Europe et l'Occident de manière générale se prend un peu pour Miss Monde sans l'être
Oui,
vraiment.
mais c'est ça. Enfin, non, mais je suis sûre qu'ils me détestent.
Ah,
Hein.
elle me trouve toute belle! Enfin bref, mais tout à fait, très bien. Eh bien écoute, moi actuellement je suis à Genève, donc j'aimerais que tu m'emmènes en Suisse.
Eh bien, nous allons aller en Suisse. On va être gentil et vous amener des actualités un petit peu plus légères. Hein.
Oui.
Et enfin, légère, c'est un bien gros mot. Je vais vous
Allongé.
parler d'une actualité suisse dont je suis sûre que vous attendiez le dénouement avec beaucoup d'émotion.
Oui.
Je parle évidemment de la tourte au kirsch de Zug.
Oh là!
Évidemment. Donc, la tourte au kirsch de Zug est un gâteau. Est un gâteau aux amandes et au kirsch, comme son nom l'indique, originaire du canton de Zug en Suisse centrale, qui est autrement très connu pour être un paradis fiscal.
Mais oui!
Mais ça n'a rien à voir, j'avais juste envie de le rappeler. Puisqu'on aime bien se vanter de nos paradis fiscaux en Suisse, et d'ailleurs, c'est intéressant, j'imagine, pour des non-Suisses de savoir qu'il existe des paradis fiscaux en Suisse, c'est-à-dire à l'intérieur de la Suisse, puisque nous avons 26 cantons,
Ouais,
dont
non,
certains
mais
sont plus des paradis fiscaux que d'autres.
il faut bien que nos riches à nous mettent leur fortune quelque part.
Voilà, c'est ça, enfin, évidemment.
C'est
Nous
logique.
avons tous notre Delaware et nos îles Caïmans.
Oui.
Enfin, voilà, donc pour en revenir à Zug. Et en Suisse, nous avons une grande tradition, en fait, de défendre notre, j'allais dire souveraineté alimentaire, mais c'est pas exactement ça, de défendre nos inventions alimentaires. Je vous parle les lapins Lindt, le Senovis, le cervelas, etc.
C'est novice.
Et vous avez certainement tous vu les pubs pour les bonbons Ricola,
Oui.
qui montre d'ailleurs un petit peu ce complexe de la Suisse, puisque toutes ces pubs montrent qu'un certain pays se vante d'avoir inventé le Ricola avant qu'un monsieur en complet croisé arrive, qui est très très suisse d'ailleurs, avec ses petites lunettes, entend dire « Ah non, Ricola, c'est suisse !» Enfin bref, et donc on a fait ça avec la tourte au kirsch de Zug, qui était bien
Et les fonds
évidemment...
juifs en déshérence aussi, mais ils coupent toujours la publicité à ce moment-là, en fait.
Ça n'a rien à voir. Donc, la tourte de Zug, au kirsch de Zug, était en voie de disparition. Je ne sais pas, toujours est-il qu'on l'a inscrite au registre fédéral des appellations géographiques, d'origine géographique. Comment, attendez, je vais vous retrouver. Voilà, registre fédéral des appellations d'origine et des indications géographiques, afin d'éviter que les nombreux faussaires de tourte au kirsch de Zug ne puissent abuser en fait de ce nom. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un site internet très très joli d'ailleurs de la Société des tourtes au kirsch de Zug
Non,
qui
j'apprends
a
qu'il y a des
fait
faussaires de
campagne.
il y a des faussaires de tourtes, quoi.
Voilà, il y a des faussaires de tourtes, il y a des associations des amis de la tourte. Enfin, c'est un monde plein de poésie. Donc,
Oui.
la Société des tourtes au kirsch de Zug a fait campagne pour inscrire ce petit gâteau qui contient par ailleurs 0,6 litres de kirsch par gâteau. Donc, au registre fédéral, histoire qu'on ne puisse pas utiliser ce nom de façon abusive. Et j'ai été regarder ce qui se trouvait dans ce registre fédéral. C'était assez amusant. On trouve notamment le saucisson vaudois, le gruyère, la damascide, l'emmentaler, la viande séchée du Valais, mais également le café colombien.
Ah oui, bah oui.
Alors, oui, donc vous serez heureux de savoir que le café colombien est protégé par la législation suisse
Normal.
dans le registre fédéral, afin d'éviter que les nombreux faussaires de café colombien en Suisse ne puissent utiliser l'appellation café colombien. Donc apparemment, selon la loi, les protections sont ouvertes aux entreprises, enfin aux produits étrangers, mais seul le café colombien est inscrit dans cette liste. Enfin bref. Donc voilà, c'était un petit fun fact sur la tourte au kirsch qui est maintenant protégée. Nous en sommes très contents, parce que c'était quand même un peu inquiétant avant.
Eh bien, merci Émilie, comme
Et
disent
voilà,
nos amis québécois, c'était ben ben le fun.
je suis toujours là pour vous raconter des choses
Moi
importantes.
j'aime bien, moi j'aime bien.
Non, ça distrait un peu.
Exactement. Et puis on va terminer sur une petite brève politique au niveau suisse, puisque figurez-vous que les Suisses finalement sont pour les accords bilatéraux avec l'Europe. Et la question qu'on peut se poser immédiatement, c'est wait, what?
Exactement, j'allais dire ça.
Donc, vous le savez probablement si vous suivez un peu l'actualité internationale, en février l'année dernière, le peuple suisse a voté, de peu, mais il a voté quand même, une révision de la constitution limitant ce qui est appelé l'immigration de masse, c'est-à-dire autant les gens qui viennent travailler que ceux qui viennent demander l'asile à un quota chiffré fixé chaque année. Ce vote a fait grand bruit car il signait la fin des bilatérales, l'accord exceptionnel entre l'Europe et la Suisse qui avait dans ses principes fondamentaux et obligatoires la libre circulation entre les zones respectives à ces deux entités. Il faut savoir enfin que ce référendum a particulièrement été porté par les parties germanophones et italophones du pays. Or, dans un tout récent sondage conduit par l'Institut GFS Berne, 55% des Suisses verraient une majorité d'avantages au maintien des bilatérales, tandis que seulement 23% d'entre eux y voient une majorité de désavantages. Welp! Pis encore, le découpage linguistique, puisque les italophones confirment leur vote en étant les moins favorables au bilatéral, 39% contre, 24% pour, les germanophones sont eux plus intéressés par le maintien à ces accords, avec 59% pour, tandis que les francophones, alors qu'ils étaient les moins favorables à l'initiative constitutionnelle acceptée l'an dernier, sont pour les bilatérales à seulement 48%. Le fin mot de l'histoire avec ses contradictions, c'est que ça donne raison à celles et ceux qui veulent qu'on revote sur la question. Non, décidément, on n'en a pas fini avec cette histoire.
Absolument, mais c'est quoi l'alternative au bilatéral du coup?
Ça, le sondage ne le dit pas, évidemment, parce que c'est un
c'est
sondage.
Genre, c'est l'adhésion à l'Union Européenne, non?
C'est bêtement basé sur le. Bah, soit c'est les bilatérales. Enfin,
en parce que cas, je veux dire, c'est bien joli de dire qu'on est pour ou contre les bilatérales, mais il y a un moment où l'Europe va nous dire ouais, mais les gars, les bilatérales, il faut oublier maintenant. Enfin,
en gros.
On vous a fait des cadeaux pendant assez longtemps.
Le problème, le grave problème, c'est qu'en fait, si tu veux, les accords devaient être renégociés, parce que les bilatérales étaient limitées dans le temps. Les bilatérales devaient être renégociées de nouveau avec l'Europe, justement. Très peu de temps après le vote qu'on a fait l'année dernière par rapport à ça. C'était le fameux non-paper O'Sullivan-Rossier, où en fait le représentant européen, donc O'Sullivan, et le représentant suisse, donc Rossier, allaient se mettre d'accord sur une série d'arrangements institutionnels qui allaient aller un petit peu plus loin que les bilatérales actuelles, mais qui pour autant ne correspondaient pas à une intégration complète dans l'Union européenne, qui pour la Suisse est un problème parce que ça signifie par exemple partager la même TVA, partager les mêmes conditions au niveau des marchandises, au niveau des travailleurs, de manière strictement exacte, tandis qu'il y a parfois certains contingentement limités ou certains accords spécifiques concernant l'importation de certains types de denrées ou ce genre de trucs-là. Donc, il y a, comment dire, l'acquis communautaire n'est très clairement pas complètement repris par la Suisse. Ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est simplement l'ensemble des lois européennes qui sont acceptées par tous les pays européens. Pour complexifier un petit peu le bordel, je rappelle que des pays comme, par exemple, par hasard, l'Angleterre, n'en font qu'à leur tête et acceptent certains trucs sans accepter les autres, sont dans le marché, sont dans une partie du marché sans pour autant accepter la monnaie. Enfin, c'est un bordel sans nom. D'ailleurs, je vous conseille un truc. C'est de chercher sur Wikipédia, il y a un diagramme de Venn. Vous savez peut-être, si vous avez fait un peu de mathématiques, ce qu'est un diagramme de Venn. C'est en fait un diagramme, donc un visuel, dans lequel on voit différents ensembles, donc différents groupes de trucs. En l'occurrence, les trucs qui sont comptés, c'est les pays. De quoi ils font partie? Est-ce qu'ils sont dans la zone euro? Est-ce qu'ils sont dans l'espace économique européen? Est-ce qu'ils sont dans ci? Est-ce qu'ils sont dans ça? Est-ce qu'ils sont dans l'Union européenne? Est-ce qu'ils sont dans le Conseil de l'Europe? Ce genre de trucs. Est-ce qu'ils ont signé la CEDH? Plein de trucs comme ça. Et en fait, on voit qu'au niveau de l'Europe, c'est un bordel complet. Il y a un graphe, il y a ce diagramme de Venn où en fait c'est tout et n'importe quoi. Il y a des trucs qui se traversent, il y a des accords qui sont spécifiques à certains pays, il y a des trucs où quasiment tout le monde est sauf un. Donc finalement.
Mais l'Union européenne a été créée pour simplifier la situation, non?
Là où je voulais en venir, oui, mais le problème c'est que comme ils n'ont pas pu tout imposer, comme les pays européens sont culturellement très marqués et ont une certaine idée pour la plupart de leur souveraineté, le problème c'est que ça coince un peu et ils ont du mal justement. À faire, alors pas aller jusqu'à faire un état fédéral et à faire un pays européen, mais en tout cas à vraiment accorder leur violon.
Absolument, et bien tu pourras nous tweeter ça.
Oui.
sur notre compte Twitter de Carrément Méchant et on se réjouit de pouvoir encore se torturer le cerveau en regardant ça. On était déjà resté avec les complications du Moyen-Orient. Si tu nous dis maintenant que l'Europe c'est aussi compliqué, on va pas s'en sortir, Ryan.
Mais tout ça pour dire qu'au niveau institutionnel, ça permet un petit peu à la Suisse de souffler dans le sens où si, voilà, le fait qu'il y ait eu pendant entre-temps un gros côté de tangage au niveau de, notamment de la Grèce qui disait « j'ai peut-être quitté l'euro » et des trucs comme ça, ça permet à la Suisse de dire « non, il n'y a pas que nous qui faisons chier, d'accord, on a un peu marché sur les bilatérales, sur notre partie du contrat, mais en soi, très franchement, on n'est pas les seuls et la situation est suffisamment complexe pour que vous ne fassiez pas nécessairement de la Suisse un exemple. » Donc c'est compliqué aujourd'hui entre nous et l'Europe et ça va continuer à se complexifier avec cette schizophrénie de « en gros, on veut le beurre, l'argent du beurre et toutes les parties du corps de la crémière, mais en même temps, on n'a pas envie de prendre les inconvénients qui vont avec. Mais en même temps, on aime quand même bien l'ancien accord qu'on avait. Donc c'est assez compliqué comme approche. On souhaite surtout bien du courage aux gens qui vont devoir négocier ça, aussi bien du côté de la Suisse que du côté de l'Europe, qui doit prendre en compte à la fois les envies du peuple, les envies du patronat, les envies du gouvernement, les avis des parlementaires. Très franchement, ces gens-là, ils font un boulot. Très franchement, je pense que Kasparov se faisait moins chier. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Voilà.
Absolument. Mais voilà, du coup.
On a fait le tour de l'actualité.
Du coup, sur ces belles paroles, on a fait le tour de l'actualité. Yes. Et puis, on va rester en contact avec vous par Twitter.
Oui, c'est possible.
Et vous pouvez également nous écrire, enfin, dans les commentaires sur notre page Radio Kawa. Donc, sur Twitter, nous sommes @méchantRK ensemble.
Exactement.
Et séparément @inkshd.
@inkshd pour moi et @eroulet pour toi.
Absolument.
C'est un plaisir.
Et voilà, du coup, on va vous retrouver dans 2 ou 3 semaines. Selon si mon internet ne le permet ou pas.
Sois réaliste, 3 semaines. Même pour moi, si tu veux, là j'en chie. Enfin, c'est. Franchement, 3 semaines.
3 semaines.
J'ai changé la description sur le site, en plus j'ai mis 3 semaines, c'est plus possible. C'est pas à cause de l'émission, c'est à cause du reste.
Y a pas de problème.
Allez, à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Bonne soirée. Jet.